9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Il est 10h du matin, ce 22 octobre 1978, quand à la basilique Saint-Pierre de Rome, évidemment, commence la messe d'intronisation du nouveau pape Jean-Paul II, de son nom Karol Wojtyla, et oui, il est polonais, cardinal et archevêque de Cracovie encore quelques jours plus tôt. Imaginez tous les grands de ce monde qui sont venus ou se sont fait représenter, chefs d'État, rois, patriarches de l'Église orthodoxe et archevêques de Canterbury. Ils sont là, sur la place Saint-Pierre, plus de 300 000 fidèles sont venus assister à l'événement. Plus d'un milliard et demi de personnes suivront la cérémonie transmise par une quarantaine de chaînes de télévision. Le cardinal Pericle Felici, c'est celui-même qui, quelques jours plus tôt, 6 jours plus tôt, avait prononcé la célèbre formule « Habemus papam, nous avons un pape », Felici place autour du cou du nouveau souverain pontife le pallium, cette bande d'étoffe de laine blanche qui est le symbole pontifical, et un par un, les cardinaux vont s'incliner devant Jean-Paul II, qui, par la suite, va prononcer ce célèbre discours. Quand je dis célèbre, parce qu'il est resté fameux par une formule « N'ayez pas peur » que le pape répète à plusieurs reprises. Ce nouveau pape est appelé à régner 27 ans, à transformer non seulement l'Église, mais le monde, à devenir une des figures majeures de l'histoire du siècle, peut-être même d'ailleurs la dernière grande figure du XXe siècle. Ce pape, les éditions chroniques lui ont consacré un de leurs fameux albums, un album qui est réédité cette année avec Radio Classique et dont on m'a fait le redoutable honneur de me confier la préface. Alors, comment évoquer Jean-Paul II en quelques pages introductives? C'est la question que je me suis posée et pour ne pas être redondant avec le contenu de l'album, eh bien, j'ai choisi de traiter le Jean-Paul II intime, personnel, secret même. Ce sera l'objet de cette émission d'aujourd'hui. Dites-vous que en 1978, le nouveau pape est inconnu en dehors des milieux religieux. C'est un homme de 58 ans, c'est le premier pape qui ne soit pas italien depuis 1522, depuis près d'un demi-millénaire. Il a l'air tout à fait différent de ses prédécesseurs. Je ne parle même pas de Jean-Paul Ier qui n'a régné que quelques semaines. Il est beaucoup plus moderne, beaucoup moins austère que n'ont pu l'être les papes précédents. Il suscite la curiosité. Certains vont bien sûr interroger son passé et notamment deux journalistes dans un ouvrage qui s'intitule « Le pasteur venu de loin » affirment que Karol Wojtyla aurait eu dans sa jeunesse une liaison amoureuse et que le nouveau pape, alors là, ça va très loin, certains disent même le nouveau pape serait veuf. Il y a cette rumeur qui va prendre de l'ampleur et qui va faire que le Vatican est obligé de publier un démenti officiel. Et bien malgré ce démenti, la vie privée du souverain pontife intéresse énormément la presse. Deux journalistes en 1996, parmi les deux journalistes, il y a celui du Washington Post qui avait révélé l'affaire du Watergate, vous savez, Carl Bernstein. Et puis il y a également l'Italien Marco Politi, dans un ouvrage qui s'appelle « Sa sainteté Jean-Paul II », ils vont expliquer que Karol Wojtyla a eu des amours de jeunesse à l'époque où il était lycéen dans les années 1930. À l'époque, l'enseignement ne mêlait pas garçons et filles, bien entendu, mais le cours de théâtre, lui, était mixte. Et c'est comme ça que Karol s'est rapproché d'une certaine Regina Beer, qui était une juive de 2 ans son aînée, qui était d'ailleurs l'assistante du prof d'art dramatique. On la surnommait Ginka. Elle était très intelligente, très cultivée, très vive. Et c'est sous son impulsion que le club de théâtre du lycée est devenu un véritable théâtre régional, ce qu'on appelait le cercle de théâtre de Wadiwocze. On est donc au sud de la Pologne. Regina va organiser les représentations, elle collecte des fonds pour payer les frais de transport, elle appelle des menuisiers pour construire la scène, elle s'adresse à des mécènes pour avoir des costumes, etc. Il se trouve qu'elle habite dans le même immeuble que la famille de Karol Wojtyla, en tout cas de Karol et son père, puisqu'il est déjà orphelin de mère. Et il va y avoir entre ces deux-là une véritable complicité, une remarquable complicité. On peut dire que Karol est également lié à Alina Krolikiewicz, qui est la fille du principal du lycée et qui parfois donne des cours de grec à Karol. Dans un ouvrage qui s'appelle « Dans le secret du Vatican », Dercy O'Brien écrit « Alina jouait souvent le rôle principal féminin, le rôle d'aristocrate auquel convenait parfaitement sa blondeur et la dignité qui, comme dans le cas de Carole, émanait d'elle. Ils se partagèrent la vedette dans une représentation mémorable de Baladina, une pièce de Slovatsky. Carole tenait à la fois le rôle du héros à la destinée tragique et celui de l'infâme Costrine au dernier acte. Le rôle de Costrine lui avait été attribué seulement 2 jours avant le spectacle parce que le père d'Alina avait suspendu le garçon qui devait le jouer en réalité. Néanmoins, Carole passa sans accroc du personnage du noble Kirkor à celui de l'ignoble Costrine. « J'ai de toute façon mémorisé tous les rôles », dit-il à Alina. Pendant la guerre, malgré l'occupation de la Pologne par les nazis, évidemment, Carole et Alina vont continuer à faire du théâtre clandestinement. Mais déjà à l'époque, Carole est sur un autre chemin. Déjà, il se destine à la prêtrise. Ils se reverront le 11 novembre 1946. Ce jour-là, Carole est ordonné prêtre depuis 10 jours. Il va célébrer son premier baptême chez Alina, qui vient de donner naissance à une fille. Et c'est le jeune prêtre Carole Wojtyla qui va baptiser la fille de celle avec laquelle il avait joué au théâtre. Lorsque Carole Wojtyla deviendra pape, Alina se souviendra de ce beau jeune homme, intelligent, charismatique, avec sa diction parfaite, dit-elle, sa voix limpide, ses gestes si beaux et si précis. Et dans son autobiographie qui paraît en 1996, Jean-Paul II lui-même parlera de cette époque. Alors il écrit qu'au lycée, sa vocation sacerdotale n'était pas encore mûre. Il précise « Certaines personnes pensent probablement que si un jeune homme montrant une telle inclinaison religieuse ne va pas au séminaire, c'est un signe que d'autres amours ou prédilections se jouent dans son cœur. Mais à cette époque, je brûlais de passion pour la littérature et par-dessus tout pour le théâtre. » Dont acte. Carole est un lycéen modèle, c'est un bon élève dans toutes les matières depuis le début de sa scolarité. Il est passionné par la poésie, le théâtre. Il aime aussi beaucoup le football. Il est très sportif. C'est un garçon discipliné, rigoureux. Il se lève à 6 heures tous les matins. Il faut dire que son père est un lieutenant de l'armée polonaise à la retraite et que ça ne rigole pas, si je puis dire, chez les Wojtyla. Après le petit déjeuner et la toilette à l'eau froide, on respecte des règles strictes et Carole ne va pas boire d'alcool, ne va pas fumer, il se montre très pieux. Il faut vous dire qu'il y a dans l'appartement familial un bénitier dès l'entrée, il y a un prie-dieu dans le salon, des images religieuses, des icônes partout au mur. Et tous les matins, tous les soirs, Carole va à la messe. Lorsqu'il était petit, après avoir reçu un 0 en cours de catéchisme, il avait pleuré et un camarade lui avait dit « Oh, c'est pas grave, tu ne veux quand même pas être pape ?» Eh bien, sait-on jamais. Cette jeunesse dans la foi, dans l'étude, dans la rigueur, s'accommode mal d'amours qui sont de toute façon platoniques. Mais le futur Jean-Paul II, qui a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 9 ans, et qui a perdu son seul frère à 12 ans, et puis son père pendant la Seconde Guerre mondiale, ce jeune Carole va sans doute trouver du réconfort auprès d'un certain nombre de femmes qu'il va rencontrer tout au long de son parcours dans l'Église.
Thank you.
Rafał Blechacz interprétait cette quatrième polonaise de Frédéric Chopin. À la fin des années 40, Karol Wojtyła, qui a 30 ans à peine, est un prêtre pas comme les autres, si je puis dire. Il est très proche des jeunes. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prête peu d'attention à son apparence. Il a toujours une soutane râpée, des chaussures usées, mais peu importe. Il y a cette force physique, cette grande culture, cette sensibilité profonde, ce caractère rassurant et bienveillant qui va faire de lui un prêtre à succès, si je puis dire. Il célèbre la messe à l'église Notre-Dame de Cracovie tous les mercredis à 6h du matin. Un groupe d'étudiants fidèles est là qui l'écoutent, avec notamment beaucoup de jeunes femmes toujours au premier rang. Et Wojtyła donne aussi des conférences à la congrégation des filles de Nazareth. C'est quelqu'un de sportif, je vous l'ai dit. Il skie notamment, même s'il ne skie pas très bien. Il fait du vélo, il randonne avec les étudiants. On le voit un jour donner une messe avec les moyens du bord. Il a renversé un canoë et kayak pour faire un autel et on a utilisé les pagaies croisées pour faire la croix. Vous voyez, il est professeur à la chaire d'éthique et de l'université catholique de Lublin, et les élèves vont l'élire le plus intelligent et le plus saint de tous. Et même lorsqu'il est nommé évêque en 58, il n'abandonne pas tous ces jeunes gens qui le suivent depuis le début et avec lesquels il continue à faire du kayak dans les lacs, sur les lacs de Mazurie, au nord de la Pologne. On célèbre volontiers la messe en pleine nature. Bref, vous l'aurez compris, Karol Wojtyła est un évêque anticonformiste qui n'hésite pas d'ailleurs à évoquer les questions conjugales et de sexualité. Il va même publier en 1960 un ouvrage qui s'appelle « Amour et responsabilité » dans lequel il parle de l'amour dans le couple, etc. C'est un évêque et bientôt un archevêque qui va faire parler de lui par son anticonformisme. Et puis il devient cardinal, et puis il est élu pape. Et évidemment, il est bien obligé à ce moment-là de changer un peu ses habitudes. Le voilà maintenant au Vatican, logé aux deux derniers étages du palais pontifical, dans l'aile est, qui a été bâti par Sixte Quint à la fin du XVIe siècle. Alors, les appartements de Jean-Paul II, on les connaît, sont les appartements du pape, grands appartements, confortables, mais il a fait retirer tout le luxe qui avait installé le pape Paul VI. Avec le Paul VI, était un grand amateur d'art qui collectionnait les tableaux, les objets d'art. Plus rien de tout ça avec Jean-Paul II, qui revient à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus épuré, à un emploi du temps presque monacal, si l'on peut dire, et puis un emploi du temps très strict, comme il l'a toujours eu toute sa vie. Il se réveille entre 5h30 et 6h le matin, après une séance de gymnastique, douche rapide, séance de méditation, il célèbre la messe à 7h dans sa chapelle privée, en présence d'invités souvent si nombreux que certains doivent assister à l'office depuis le couloir, parce que c'est une toute petite chapelle que la chapelle privée du pape. Et puis après le petit déjeuner, méditation, prière, le pape rejoint son bureau et à partir de 11h, il enchaîne les audiences, les réunions de travail, les conseils, etc. Il ne se couche qu'à 11h30 du soir, après bien sûr la prière et la récitation du bréviaire. Je vous renvoie à ce livre des éditions chroniques pour toute la journée du pape, ce à quoi ressemblait la journée de Jean-Paul II. Malgré tout le protocole, malgré cette organisation rigoureuse, il n'en continue pas moins à entretenir des contacts humains, à être au plus près des fidèles. La technique du colloque du professeur avec ses collégiens ou ses étudiants l'emporte toujours sur l'étude solitaire des dossiers, nous dit Jean Chélini. Philosophe et non-juriste, pasteur plus qu'administrateur, le pape voit les problèmes à travers les hommes qui les possèdent, les vivent ou les posent. Presque tous les dimanches, il effectue par ailleurs des visites dans une des 293 paroisses de Rome. Aucun de ses prédécesseurs n'avait établi avec cette population romaine des liens aussi forts et directs, même si on avait vu Pie XII notamment avoir avec ses ouailles, puisqu'après tout, le pape et l'évêque de Rome, des relations assez fortes. Le pape veut également organiser autour de lui une atmosphère qui lui rappelle sa Pologne natale. Il y a ces cinq religieuses polonaises qui s'occupent de l'intendance. Et puis, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il entretient de longues amitiés avec deux femmes polonaises, dont je vais vous parler dans un instant. Il a de fascinantes correspondances privées.
Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratras, via peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, domissio, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. ideo precor beata Mariam semper virgine, omnes angelos et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis se peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Confiteor Deo Omnipotenti, vous avez entendu la voix même de Jean-Paul II pour cette messe qui a été célébrée à Saint-Pierre de Rome le 29 juin 1985 et qui était accompagnée, s'il vous plaît, par l'Orchestre Philharmonique de Vienne et le Singverein de Vienne sous la direction d'Herbert von Karajan, cette messe du couronnement de Mozart dont vous avez entendu quelques courts accents, de les tout premiers accents du Kyrie. En fait, ce pape Jean-Paul II n'a finalement rien fait comme les autres. De ses jeunes années de prêtrise, il gardait une solide amitié avec une certaine Wanda Poltawska. Et en 2011, alors qu'elle avait 89 ans, elle a publié le journal d'une amitié dans lequel elle racontait 50 ans d'échanges avec Karol Wojtyla. Elle était mariée, mère de famille, médecin. Elle révèle avoir toujours été très proche de Karol, même lorsqu'il est devenu pape. Leur première rencontre remontait aux années 50. Elle était très croyante, Wanda Poltawska. Elle cherchait un accompagnateur spirituel pour l'aider à surmonter le traumatisme de sa déportation à Ravensbrück. Et Wanda était sortie du désespoir grâce aux paroles de Wojtyla. Ils étaient devenus très amis, jusqu'à se retrouver parfois en montagne l'été, et jusqu'à entretenir donc ce lien épistolaire. Quatre jours après être devenu pape en 78, Jean-Paul II écrivait à Wanda « Je veux continuer à cheminer avec toi en un certain sens jour après jour, non seulement par la prière sans arrêt, mais aussi par une chaîne de pensée-méditation, comme en témoignent les feuilles jaunes que je joins à cet envoi. » L'été, Wanda était invitée dans la résidence papale de Castel Gandolfo et c'est Jean-Paul II lui-même qui lui a conseillé en 1993 d'écrire les fameux mémoires dans lesquels elle raconte cette très grande amitié qu'elle a eue avec lui pendant longtemps. Et puis, il y a plus étonnant encore. En 2016, c'est-à-dire 2 ans après la canonisation de Jean-Paul II, un documentaire de la BBC réalisé par le journaliste Edward Stourton a évoqué une autre amitié plus récente, une relation entre ce pape et une philosophe, Anna Teresa Tiemiensenska. Et ça, c'est aller plus loin que la complicité intellectuelle. C'est en 73 que Karol Wojtyla, qui donc est à l'époque archevêque de Cracovie, rencontre Anna Teresa Tiemienska, cette philosophe américaine, fille d'aristocrate polonais, mariée à un économiste qui était proche du président Nixon, et mère de 3 enfants. Elle enseigne elle-même à l'Université catholique de Lublin. Elle a lu les ouvrages de Wojtyla, notamment un livre qu'elle conseille à ses étudiants qui s'appelle « Personne et actes », qui est le grand livre de Karol Wojtyla. Et après plusieurs rencontres sur la réédition de l'ouvrage en anglais, ils vont entamer tous les deux une relation épistolaire de 350 lettres, échanges philosophiques, théologiques, et qui se montrent de plus en plus proches et intimes. En 76, le futur pape écrit « Je vous accepte et ressens votre présence dans toutes les situations, quand vous êtes proche, mais aussi quand vous êtes au plus loin. » Cette correspondance est entrecoupée de nombreuses rencontres dans la ferme familiale de la philosophe, dans le Vermont, ou bien à la montagne, où ils vont camper l'été ou faire du ski l'hiver. Et ces échanges et ces séjours vont se poursuivre, y compris après l'élection de Wojtyla sur le trône de Saint-Pierre, occasion pour le pape d'oublier les responsabilités et les fatigues de son pastorat. Dans les années 90, alors que Jean-Paul II est atteint de la maladie de Parkinson et que sa santé décline beaucoup, Anna Teresa va lui rendre visite au Vatican. Elle lui envoie constamment des fleurs, des photographies. Et malgré cette relation qui dure jusqu'à la mort de Jean-Paul II en 2005, le pape, d'une certaine manière, n'assume pas vraiment cette amitié. D'ailleurs, le Vatican n'en a conservé aucune trace. En 2008, Anna Teresa vendra à la Bibliothèque nationale polonaise les lettres que Wojtyla lui avait écrites, mais celles qui sont rédigées par la philosophe ne figurent pas dans cette correspondance. Les lettres de Carole, devenu donc le pape Jean-Paul II, témoigne, je cite Stourton, du combat pour contenir ce qui était sûrement une relation très intense. Très intense, mais très chaste, évidemment, et conforme à la piété qui aura animé chaque jour d'une existence hors du commun. Il semblerait que je sois un petit peu en retard ce matin. Je m'en excuse auprès de Christian Morin. Bonjour Christian.
Quand je vous écoute, je ne regarde jamais l'heure, vous savez. Donc j'écoute et je me régale. Bonjour mon cher Franck. J'allais vous réciter en latin le Sanctus.
Le Confiteor, ou le Sanctus.
Oui, Confiteor, De Omnipotente, Deus Sabao, Plenis Ut Filii.
Vous avez été enfant de cœur, ça se voit hein, tout de suite.
Oui. Alors, très longtemps, aux côtés de mon oncle, en Charente, donc, j'ai écumé plusieurs chapelles et plusieurs messes le dimanche matin. Mais vous parliez de messes en plein air, en pleine nature, à propos du pape Jean-Paul II. Hier, justement, cher au cœur de notre réalisateur, Bertrand Dorigny, à Châlons-en-Champagne, il s'est passé quelque chose de particulier, puisque il y a eu l'évêque, Monseigneur Touvet, a dit sa messe en plein air sur un parking, comme on le fait pour le cinéma aux États-Unis. D'ailleurs, Elodie Fondacci y faisait allusion ce matin. 500 fidèles et 200 voitures avec communion aux portières.
Ah oui,
voilà, donc je pense que
drive,
ça aurait fait plaisir à Jean-Paul II.
Oui, sans doute, oui. Tout ce qui était anticonformiste lui plaisait d'une certaine manière.
Commune en drap. Je voulais quand même aussi revenir, j'en profite, à ce passage d'antenne avec vous, Franck, pour rappeler qu'il y a, à l'occasion justement du centenaire de Jean-Paul II que vous évoquiez, eh bien on peut redécouvrir ce pape emblématique, Jean-Paul II, préfacé par vous dans un livre qui est sorti, un très bel ouvrage d'ailleurs, par son engagement et
son ouverture. Oui, c'est ses albums des éditions chroniques, hein, bien sûr.
Oui. Exactement, oui, dans la collection Personnages de l'Histoire. Il faut dire que le livre est très très bien documenté. La topographie aussi,
l'iconographie.
L'iconographie.
Les illustrations.
Les illustrations sont parfaites et rééditées aux éditions chroniques à lire absolument. Et merci pour cette préface. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en rappelant qu'à 14h, vous parlerez de la résistance, mais au travers d'une américaine.
Et oui, Nancy Wake, un personnage absolument extraordinaire. Oui.
Merci beaucoup, Franck, et bonne journée.
Merci à vous Christian, bonne journée et bonne semaine.